ça n'a rien de neuf. Depuis 1997, le Rwanda fait la pluie et le beau temps à l'est de la RDC, de l'AFDL au M23, en passant par le RCD Goma, CNDP, de Laurent Nkunda, puis de Bosco Ntaganda. Donc il n'y a absolument rien de neuf. Il y a au départ un certain nombre de militaires qui étaient issus de l'ancienne branche armée du RCD, qui ne voulaient pas être redéployés aux quatre coins du territoire et qui exigeaient un statut spécial. En partie à cause de cela qu'ils se sont rebellés. Depuis toute cette période-là, une des caractéristiques du Rwanda, c'était que précisément, ce pays se trouvait en situation de rente sécuritaire, puisque d'une part, ces militaires issus de l'ancienne branche armée du RCD refusaient d'être redéployés aux quatre coins du territoire congolais, mais en plus, ils avaient une utilité pour Kigali, puisqu'ils permettaient à Kigali de traquer les dernières poches de résistance des FDLR notamment.
Aussi des intérêts ougandais.
Bien entendu, ces intérêts-là, on les retrouve beaucoup plus dans le district de l'Ituri, c'est-à-dire dans la province orientale, mais il se trouve qu'il y a des ramifications entre ces deux pays en termes de soutien à cette rébellion, et puis surtout des intérêts qu'ils souhaitent préserver pour continuer à peser d'une manière directe ou indirecte sur le devenir de ces deux provinces.
C'est Kampala qui avait soutenu le mouvement de Jean-Pierre Bemba, le MLC.
Bien entendu, ce qui a permis à l'Ouganda d'être représenté au sommet de l'État congolais entre 2003 et 2007.
Est-ce que tout ceci ne prouve pas qu'à Kinshasa, il y a encore une très très grande faiblesse?
Alors, le déficit à la fois de leadership, de légitimité et même de capacité militaire est la principale marque de la RDC aujourd'hui, qui incite certains groupes soit à se constituer ou à sortir de leur sommeil pour essayer de tenter leur chance et imposer à leur manière une redistribution des cartes politiques. Et relever par ailleurs qu'il y a eu quand même de la part de Kinshasa une absence notoire de volonté politique pour pouvoir doter le pays d'une armée à la fois républicaine, unifiée et structurée. Et puis le fait que sur le plan diplomatique, aucun moyen probant n'a été mis en œuvre pour permettre à la RDC de se faire respecter sur la scène diplomatique.
Mais comment se faire respecter d'autant que beaucoup de sénateurs étaient d'anciens alliés de Kigali? Les hommes actuellement au pouvoir, y compris même le porte-parole du gouvernement, ont fait leur école à Kigali. Comment est-ce qu'on peut se refaire une santé politique?
Ce qu'il faut bien distinguer, c'est depuis 2006, on a eu deux élections présidentielles. On ne va pas revenir sur les conditions dans lesquelles ces deux scrutins ont été organisés, mais il y a eu un vainqueur qui s'est dégagé.
Bon. Il est contesté.
Tout à fait, on est bien d'accord. Mais cette contestation-là a rendu davantage fragile le leadership de Joseph Kabila, mais que néanmoins, qu'en 2009, il y a eu l'opération Umojawetu, qui a permis notamment au Rwanda de pouvoir, sur le territoire congolais, traquer aux côtés de l'armée nationale congolaise, les FRDC, les dernières poches de résistance dites FDLR. Une même opération a été organisée cette fois-ci dans l'Ituri et dans le nord de la province orientale entre l'armée ougandaise et l'armée congolaise pour traquer la LRA. Le Rwanda et l'Ouganda n'ont jamais été satisfaits. Il valait mieux marquer Joseph Kabila à la culotte au point de lui imposer un certain nombre de partenaires, peut-être pas toujours fréquentables, mais ça n'a pas exonéré Kinshasa de sa responsabilité, en cas de problème, d'être en capacité de faire entendre sa voix sur la scène diplomatique, en dépit de ce fait que certains responsables politiques avaient fait leur classe à Kigali ou Kampala.